Bonjour à tous et bienvenue dans L'Échappée, le podcast qui, toutes les deux semaines, vous fait découvrir un professionnel du vélo. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Juliette Labousse, coureur pour l'équipe DSM, ex-Sunweb, et grand espoir du cyclisme français. Juliette n'a que 22 ans, elle est originaire de Franche-Comté, et elle a déjà remporté des titres de championne de France dans les catégories junior, espoir et élite en 2020. Elle est passée pro chez l'équipe Sunweb en 2017 à seulement 19 ans, et en 2019, elle finit 11e et meilleure jeune du Tour d'Italie, la plus grande course par étape féminine. En 2020, elle est championne de France de contre-la-montre, aussi bien en espoir qu'en élite. Elle finit aussi 8e de Liège-Bastogne-Liège. Pour ce qui est des sujets abordés dans l'épisode, je les mets en description du podcast, donc je ne vais, pas vous les répéter ici, ils sont nombreux, je vous laisse écoutez l'interview directement. Juliette, merci beaucoup d'être l'invitée de L'Échappée.
Merci beaucoup à vous de m'avoir ce soir.
Alors, je peux me tutoyer, t'inquiète pas, c'est vraiment...
Ok, ça marche.
C'est très informel ici. La première question, c'est la même pour tous les invités. Juliette, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombée dans le vélo ?
Oui, bah, c'est simplement, j'ai un grand frère qui s'est mis à faire du vélo assez tôt. Et du coup, j'ai voulu faire comme lui depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai commencé par du VTT et du BMX. Donc, exactement comme mon grand frère.
Et t'avais quel âge ?
Alors, j'ai commencé à faire du vélo vraiment quand j'avais 3 ans et demi. Quoi, donc, juste comme ça, quoi, à faire du vélo. Et par contre, en club, j'avais 7 ans.
Ah, donc déjà, dès 7 ans. Et comment...
Ouais.
Et est-ce que tu peux nous expliquer la progression entre les BMX et le vélo, le VTT, à aujourd'hui, on va dire en tout cas jusqu'à tes débuts dans le haut niveau. Comment ça s'est passé ? Comment tu as gravi les échelons ?
Oui, bah, ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai toujours été motivée dans le vélo, donc je pense que j'ai toujours un peu évolué avec cette passion. Donc, j'ai commencé par le BMX et en même temps, à côté, je faisais toujours du VTT, donc le mercredi, tous les mercredis à l'entraînement. Et puis après, donc, j'ai fait quand même plus de BMX. Donc, vraiment, le VTT, c'était que à côté. Et après, j'ai arrêté le BMX en 2010, donc quand j'avais 12 ans, pour faire que du VTT. Et après, en 2011, j'ai découvert la route et le cyclocross, et puis ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, j'ai décidé de me consacrer à ça et de toujours faire un peu de VTT à côté. Et puis, en 2014, j'ai quand même refait du VTT en compétition aussi. Et puis après, il y a eu le choix qui s'est fait de faire que de la route. Donc, ça, c'était il y a 2 ans. Mais voilà, vraiment, le haut niveau, ça s'est mis en place, j'ai envie de dire, depuis le lycée où j'ai intégré le Pôle Espoir Franche-Comté. Donc là, c'est vraiment, ouais, c'était le début du haut niveau pour moi, quoi.
Et à partir de quand tu t'es dit que tu pouvais être professionnelle ?
Bah, j'ai toujours, je pense, voulu y être, surtout depuis le lycée, vu que j'ai intégré le Pôle Espoir. Après, chez les filles, c'était assez compliqué au début de se projeter parce qu'il n'y avait pas trop de statut professionnel. Et je savais qu'il y avait beaucoup de filles qui continuaient quand même à avoir un métier à côté. Donc, j'ai toujours voulu me dire que je voulais aussi avoir un vrai diplôme pour ensuite penser à être professionnel à 100%, quoi. Mais j'ai toujours quand même voulu, en tout cas, accéder au plus haut niveau depuis le plus jeune âge, quoi.
OK. Et au lycée, avec le Pôle Espoir, est-ce que tu peux nous expliquer le rythme entre études et entraînement ?
Ouais, bah c'était assez chargé. En plus, j'ai fait le bac S option sciences de l'ingénieur. Du coup, on avait quelques heures en plus d'un bac S normal, donc c'était assez chargé. Mais en fait, grâce au lycée, moi j'étais au lycée Jules Lag à Besançon, on avait des aménagements donc avec le pôle pour s'entraîner en fait. Donc on avait par exemple le mardi, on avait entre 10h à midi, on avait un créneau. On avait le mercredi après-midi de libre. Le jeudi, on avait un autre créneau de 10h à midi. Et puis en fait, le reste, bah, c'était des assez grosses journées de cours, mais voilà, fallait bien s'organiser, mais ça nous permettait vraiment de s'entraîner au mieux pour l'âge qu'on avait au lycée, quoi.
Ok, super. Et t'as continué les études après le bac, d'ailleurs ?
Ouais, j'ai fait un DUT en génie mécanique et productique. Donc, en 3 ans au lieu de 2, pareil, pour que, au niveau des aménagements, ça se passe mieux au niveau de l'entraînement.
Ok. Et là, comment t'es soutenu pour arriver à faire les compétitions à droite, à gauche ? Ça marche comment à ce niveau-là ?
Bah là, vu que je suis depuis donc Team Sunweb, donc là cette année ça change de nom, ça s'appelle Team DSM. Donc je suis avec eux depuis ma première année élite. Et puis bah, après, clairement, c'est quasi eux qui s'occupent de tout. Enfin voilà, des déplacements et tout. Et moi, j'ai juste à aller à l'aéroport entre guillemets et prendre l'avion. Et puis après, c'est tout eux qui se chargent du reste. Donc c'est assez facile une fois qu'on est pro, quoi.
Et donc la première année élite, c'est quel âge ?
Moi, du coup, j'avais 19 ans. L'année de 19 ans. J'avais pas encore 19 ans, mais
C'est l'année après le bac pour toi.
Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais un an d'avance, donc j'étais déjà dans mon année, une année après le bac encore, mais voilà, normalement, c'est l'année après le bac.
Et donc, tu es arrivé avec, en faisant partie de l'équipe Sunweb, à faire coïncider études et cyclisme de haut niveau?
Ouais, bah c'est vrai qu'il fallait bien s'organiser, mais j'étais sur la lancée du lycée, alors ça va, j'étais déjà bien. Fallait être bien méthodique, de toute façon, parce que sinon c'est compliqué, mais voilà, c'était l'organisation. Mais vu que j'ai fait le DUT en 3 ans au lieu de 2, et les niveaux des profs et tout, ils étaient vraiment, vraiment sympas avec moi. Ils m'autorisaient, enfin voilà, à partir des fois 2 semaines, et puis tant que je rattrapais le travail qui avait été fait, ça leur posait pas de soucis. Donc ça s'est vraiment bien passé, en tout cas.
Ah bah super, félicitations. Et donc pour revenir un peu sur toi, ton intégration à cette team DSM ex-Sunweb, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé dans cette équipe?
Et ben en fait j'ai été contactée dans ma première année junior à l'issue des championnats du monde. J'avais été dans une échappée, donc l'échappée qui a été au bout, mais moi j'ai fait une fringale, du coup j'ai pas été au bout, mais j'ai quand même été remarquée du coup sur cette course. Donc j'ai été contactée par le directeur sportif et donc on est entré en contact. Et du coup l'année d'après, donc quand j'étais junior 2, j'ai fait pas mal de stages avec eux pour voir bah, de leur côté, pour voir si je rentrais bien dans le moule de l'équipe. Et au niveau physique aussi, on avait fait pas mal de tests. Et puis pour moi aussi, voir comment l'équipe fonctionnait et puis voir si ça me plaisait. Donc clairement, ça s'est vraiment fait assez naturellement, du coup, parce que j'étais que junior. Donc ça m'a permis de voir comment ça marchait et si ça me plaisait. Et puis ça m'a vraiment plu. Donc voilà, c'était assez naturellement que j'étais chez eux, quoi.
Est-ce que tu avais été approché par des équipes françaises à l'époque?
Ouais, un petit peu plus tardivement, plutôt en fin de l'année junior 2. Du coup, c'est pour ça que c'était quand même déjà bien fait déjà avec Sunweb, quoi.
Ok. Et est-ce que tu sais quelles ont été les différences? J'imagine que tu n'as connu que l'équipe Sunweb, donc toi, c'est difficile de savoir ce qu'il aurait été avec une équipe française, mais tu as des amis forcément qui, elles, ont signé dans des équipes françaises. Quelles sont, selon toi, les plus grosses différences entre une équipe étrangère et une équipe française pour un coureur français?
Bah, c'est pas évident de comparer, vu que du coup j'ai été que dans une équipe étrangère. Après, je pense que moi, ce qui m'apporte le plus à l'étranger, c'est la différence au niveau des cultures. Voilà, que ce soit au niveau de la culture de l'équipe en soi, parce que voilà, bon, moi je suis une équipe hollandaise, donc c'est quand même assez différent au niveau des mentalités par rapport aux Français en général. Et puis après aussi, enfin, moi quand j'ai été intégrée, voilà, c'était aussi d'apprendre l'anglais, d'être vraiment dans cet objectif-là aussi, et de découvrir plein de cultures au niveau des coureurs aussi. Parce qu'on est vraiment beaucoup de nationalités différentes. Donc, en fait, on apprend beaucoup de choses des autres cultures. Donc, je trouve que c'est vraiment enrichissant à ce niveau-là. Et puis, au niveau sportif, je pense qu'il y avait, en tout cas là, peut-être que maintenant, ça évolue quand même beaucoup en France. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même pas du tout au même niveau, au niveau de la structure. C'était surtout avec l'équipe masculine qui était déjà bien mise en place, qu'au niveau du staff et tout, c'est des staffs communs avec les équipes hommes. Donc je pense qu'il y a déjà, vu que le cyclisme masculin est déjà bien mieux développé que le cyclisme féminin, ça permet déjà d'avoir de base des très bonnes structures, et du coup c'était un peu plus professionnel, je pense.
Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette équipe DSM est structurée au niveau global et quels sont les liens entre les équipes féminines et masculines?
Ouais, bah après quand j'explique assez simplement aux gens, je trouve que c'est vraiment comme une entreprise. Il y a beaucoup d'employés, et puis ben après on est au niveau du staff, on partage beaucoup de staff avec les garçons. Après, au niveau des DS, c'est plus spécifique. DS entraîneurs, voilà, ils s'occupent que de leurs effectifs. Mais du coup, il y a quand même 3 équipes avec l'équipe du développement des garçons, donc les espoirs, l'équipe féminine et l'équipe masculine en World Tour. Donc ça fait quand même pas mal de monde, beaucoup d'employés derrière tout ça. Et puis voilà, enfin c'est vraiment comme une entreprise, et ça simplifie les choses quand on explique comme ça, parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de personnes derrière.
Et donc toi, tu as des contacts avec les autres équipes, l'équipe masculine, l'équipe développement?
Ouais, bah un petit peu quand même. Après, c'est vrai que bon, bah là cette année c'était encore plus particulier, du coup on n'avait pas de stage en commun, etc. Mais dans des conditions normales, on a quand même des stages en commun ou les présentations d'équipe. Après, on se retrouve aussi sur certaines courses, on est dans les mêmes hôtels, si c'est par exemple Flèche Wallonne ou ces courses-là qu'on a les mêmes courses qu'eux. Donc, ouais, on a quand même quelques contacts. Après, voilà, c'est pas non plus tous les jours, quoi, mais voilà, c'est assez souvent quand même.
Bien sûr. Et au niveau de l'encadrement, toi, le coach, c'est un coach français que tu as ou c'est un coach de l'équipe DSM?
Alors, c'est que des coachs de façon de l'équipe DSM. Donc, au niveau des directeurs sportifs, il y en a un qui est français, qui habite à Besançon même.
Ah,
et qui
d'accord,
a
parfait.
traversé le, voilà, chez DSM, donc ça c'est cool. Et puis au niveau des entraîneurs, par contre, c'est que des étrangers.
D'accord.
Donc pareil, de l'équipe aussi, quoi.
Et donc toi, tu as un entraîneur dédié ou c'est une équipe d'entraîneurs et qui travaille avec toi en fonction des besoins?
Alors en fait, il y a une équipe d'entraîneurs, mais on a quand même chacune notre entraîneur dédié. Donc là, depuis l'année dernière, il y a un entraîneur qui s'occupe que des filles. Avant, par exemple, l'entraîneur, il s'occupait aussi de quelques garçons du développement et de pas mal de garçons du World Tour. Donc il y avait plusieurs entraîneurs pour les filles. Et là, du coup, maintenant, on n'en a qu'un qui est dédié donc à toutes les filles du groupe. Et puis bah, après, il s'occupe de nous individuellement, quoi. Donc c'est vraiment. Puis après, par contre, il y a un groupe de... enfin, le groupe d'entraîneurs, ils se réunissent assez souvent pour échanger quand ils ont des questions, voilà, sur la planification, etc. Ils travaillent tous ensemble, quoi.
Très bien. Et donc toi, cet entraîneur déjà, il est basé où?
Aux Pays-Bas.
Et tu communiques comment avec lui? Comment est-ce que vous avez cette relation entraîneur-coureur à distance?
Eh ben, on communique beaucoup par message, on s'appelle assez souvent en visio, pas mal, encore plus cette année, parce que du coup, on s'est même, je suis en train de réfléchir, mais je crois que je ne l'ai même pas vu en vrai cette année, physiquement. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez particulier, mais on s'y fait. Enfin, du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début avec l'équipe, donc on s'y habitue.
Et tu as d'autres contacts avec des nutritionnistes ou c'est vraiment ton entraîneur qui est ton point de contact principal pendant la saison hors course?
Alors, c'est vraiment tout séparé. On a les nutritionnistes qui s'occupent de nous, on a des médecins, on a des bike fitters, voilà, ceux qui s'occupent de la position, de la musculation et tout. Et en fait, après, bah, il y a forcément, des fois, c'est en lien quand même. Par exemple, la musculation avec le vélo, voilà, mon entraîneur va forcément échanger avec la personne chargée de la musculation, mais c'est quand même séparé. Voilà, c'est pas l'entraîneur, il fait pas tout, quoi.
Ok. Et donc l'équipe a changé de nom de sponsor principal cette année. Vous avez aussi changé d'équipementier. Quand est-ce que vous, déjà, vous avez été tenu au courant de cette évolution?
Ben, presque en même temps que le grand public, parce qu'ils ne voulaient vraiment pas que ça fuite. Donc, ils ne voulaient pas nous en parler trop tôt pour si jamais voilà, que la nouvelle vienne à se répandre avant leur annonce officielle, ça aurait été dommage. Donc, on a su 2, 3 jours avant. Donc, voilà, ça a
Ah
été
ouais, c'est
aussi
vraiment.
un peu une
Ouais.
surprise pour nous aussi. C'était marrant, du coup, mais voilà, je pense que c'était un bon changement, une bonne surprise pour tout le monde, je pense.
Et qu'est-ce que ce changement va impliquer en 2021?
Bah, ça implique pas mal de choses. Ça implique beaucoup, bah, comme tu l'as dit là, de changement d'équipement. Au niveau du matériel, il y a quasi tout qui change. Donc ça va nécessiter quand même de tout se réhabituer au matériel, de voir comment ça fonctionne et tout. Mais au niveau de la nutrition et tout, c'est vraiment tout qui change. Donc ouais, ça va faire beaucoup de boulot. Aussi pas mal de boulot pour ceux du service course qui s'occupent de tout ça. Mais voilà, je pense que ça va bien se passer. Et puis après, voilà, c'est aussi l'équipe pour qu'elle se refasse son nom, pour que tout le monde s'habitue au nouveau nom, etc. Donc, il va falloir se montrer et puis faire briller l'équipe.
Alors le jour où on enregistre le podcast, c'est le 11 janvier. On sait que les équipes, techniquement, elles changent de nom, elles changent d'équipementier au 1er janvier. Enfin, c'est des contrats qui durent du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je vois sur Instagram, je te suis et je suis pas mal d'autres coureurs. Et là, je vois que c'est en ce moment, c'est le désemballage de tous les nouveaux vélos, les nouveaux équipements que vous avez reçus. Déjà, est-ce que toi, tu as reçu le tien? Les
Non,
nouveaux
je ne l'ai
vélos
pas
et les
encore
nouveaux
reçu.
équipements?
J'ai reçu quelques produits. Donc voilà, les produits pour la VVO, les trucs comme ça, mais on n'a pas encore reçu les tenues. Ça a été assez compliqué avec le Covid pour eux de tout avoir à temps, mais du coup, on les a tous au stage. Donc là, pour l'instant, on cache encore les anciennes tenues.
Ok, et donc là, toi, t'as même pas reçu ton nouveau vélo.
Non, on aura tout au stage. Donc là, on y va le 19, donc ça va vite arriver.
Très bien. Et donc, pour donner plus de contexte, le vélo, vous passez de Cervélo à Scott. Quelle a été la réaction, ta réaction et la réaction au sein de l'équipe de ce changement d'équipementier?
Bon, je pense que tout le monde était content. Dans tous les cas, les deux, enfin, c'est Cervélo ou Scott, c'est des très bonnes marques. Donc, je pense que dans tous les cas, ça a fait peur à personne. Et puis, bah, moi, j'ai roulé beaucoup sur Scott quand j'étais junior. Donc, je sais que c'est des très bons vélos. Donc, j'étais contente d'apprendre cette nouvelle, quoi.
Ce changement de vélo, est-ce qu'il y a des vraies différences au niveau professionnel World Tour entre la qualité des vélos de chaque équipe? Est-ce que ça peut être un avantage compétitif?
Je pense après chez les filles en plus parce qu'on n'est pas non plus tant que ça à être en World Tour. Après, puis du coup, il y a moins d'équipes avec du staff qui s'occupe vraiment du recherche et développement, de la performance et tout. Donc je pense que ça peut faire un peu la différence à ce niveau-là que voilà, qu'il y ait ces équipes voilà, du staff qui travaillent vraiment sur le fait d'avoir le meilleur matériel possible. Donc je pense qu'il y a, il y a quelques enjeux là-dessus. Après, c'est vrai que maintenant, dans toutes les équipes, c'est quand même du bon matériel en général. Mais vu qu'on n'est pas beaucoup de World Tour, c'est vrai que les équipes un peu moins grosses, des fois, elles peuvent avoir un peu du matériel un peu moins bien ou en moins bonne quantité, moins grosse quantité, ça peut arriver aussi.
Et du coup, est-ce qu'il y a des filles qui se disent, mais moi, je suis désavantagée avec mon vélo?
Je pense pas quand même à ce point-là. Peut-être au niveau des vélos de chrono, là, je suis en train de réfléchir. En même temps, je me dis qu'en vélo de chrono, il y a peut-être un peu plus de différence en fonction des marques. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça peut faire plus de différence.
Et le vélo de chrono, toi, tu vas le recevoir. En fait, toi, qu'est-ce que l'équipe va t'envoyer? Tu as le droit à un vélo, on va dire classique, et un vélo de chrono pour chez toi à l'entraînement?
Oui, c'est ça, un vélo de route d'entraînement et un vélo de chrono d'entraînement. C'était comme ça déjà que j'avais cette année. Et puis après, on a les vélos de course et vélos de rechange, c'est eux qui les gardent, quoi.
Et la différence, elle est plus importante sur quel type de vélo?
Je pense sur le vélo de chrono. Quoi. Par exemple, là, moi, ça me fait pas trop peur de changer de vélo de route. Parce que je sais que dans tous les cas, quand on remet les mêmes côtes, enfin voilà, on se fait vite au vélo. Après, je sais que le vélo de chrono, c'est spécifique. En plus, avec les. Surtout au niveau du poste de pilotage, des fois, c'est pas évident d'avoir exactement la même chose. Donc, c'est ça qui fait un peu plus peur généralement au niveau du changement.
Ok. Et donc toi, tu bosses comment d'ailleurs? Tu as une spécialité, alors je ne sais pas si c'est une spécialité, mais on sait que tu as un très beau palmarès en particulier en contre-la-montre. Comment est-ce que tu répartis ta charge d'entraînement entre route classique et chrono?
Ben, ça, j'ai beaucoup changé au niveau des dernières années parce que je trouve que ben, en junior, je m'entraînais vraiment beaucoup en chrono et après, sur mes premières années élite, c'était pas évident de trouver le bon rythme aussi parce que ben, je voulais déjà progresser physiquement pour être au niveau qu'il fallait sur la route. Donc, c'est pas évident d'intégrer du chrono en préparation. Après, j'en faisais quand même assez pour pas non plus que mon niveau baisse. Mais puis après, j'ai eu des changements d'entraîneur aussi, donc ça a joué un petit peu. Et là, depuis l'année dernière, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus à vraiment beaucoup rouler à l'entraînement avec. Donc pas forcément faire des séances spécifiques, mais voilà, dès que je peux rouler en vélo de chrono, même sur les sorties d'endurance, et je pense que ça fait la différence. Enfin, dès que je peux ou dès que j'ai envie, voilà, je prends le vélo de chrono, quoi.
En tout cas, les résultats sont là parce que tu as été championne de France élite et espoir en 2020. Donc, c'est pas rien d'être titré élite quand tu es encore dans la catégorie espoir. Donc, félicitations.
Merci.
Et d'ailleurs, toi, comment tu te. On va revenir un peu plus tard sur ton année 2020, mais comment toi, d'abord, tu te décrirais comme coureur?
Ben, c'est pas évident, il y a pas mal de gens qui me demandent. Moi, je pense que je suis quand même plus une grimpeuse. Et puis, pour les classements généraux, voilà, entre guillemets, grand tour. Après, on n'a pas de grand tour, donc c'est pas évident de dire ça. Mais voilà, pour les classements course par étape. Et puis après, voilà, un peu rouleuse aussi avec mes qualités en contre-la-montre qui m'aident quand même à être assez forte quand c'est des courses sur le plat, quoi. Donc un peu complète, mais plutôt grimpeuse.
Ok, et donc toi, tu travailles plutôt quoi?
Ben, le contre-la-montre et puis mes qualités de grimpeuse, c'est vraiment ce que je cherche à travailler. Et puis par contre, cette année, j'aimerais bien aussi m'améliorer au niveau du punch. C'était pas quelque chose que je travaillais les dernières saisons et je trouve que ça manque vraiment sur quasi toutes les courses où ça sert, voilà, à faire la décision et pouvoir suivre le top 5 sur beaucoup de courses. Donc je veux essayer de travailler ça cette année.
Et ça, c'est l'équipe qui te demande de te spécialiser ou c'est toi qui choisis les axes de développement.
Bah, on en parle ensemble. Après, c'est quand même eux qui prennent la décision finale. Voilà, en parlant avec l'équipe de performance et l'équipe des entraîneurs dont je t'ai parlé. Et puis, mais voilà, après, voilà, on échange. Moi, je leur suggère des fois ce que je pense que je peux améliorer. Et puis après, bah, eux, ils me disent ce qu'ils en pensent, quoi.
Ok. Si on revient du coup sur ton année 2020, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les enseignements de cette année et nous raconter un petit peu le déroulement de cette année.
Ouais, je pense qu'au niveau des enseignements, il y en a pas mal cette année avec le Covid. Ça nous a quand même fait travailler pas mal de choses. Je pense que surtout au niveau de la flexibilité. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un, voilà, qui aime toujours avoir des plans, que ça soit tout fait à l'avance, etc. Donc là, ça a été quand même assez dur cette année. Au final, ça s'est bien passé, mais ça, il a fallu, voilà, un peu tout rechanger, je trouve, dans nos habitudes. Donc ça a permis vraiment d'apprendre à s'adapter, quoi. Je pense que ça permet de développer cette qualité-là. Et puis après, au niveau de ma saison, bah, je retiens quand même le beau début de saison en Australie où c'était, ben, déjà premièrement une expérience d'aller en Australie. Je n'avais jamais été, donc voilà, c'était déjà un très beau voyage et puis des très belles courses avec le Tour Down Under et puis surtout la Cadel Evans où il y a mon équipière qui a gagné et moi j'étais vraiment active dans la course, donc c'était des très bons souvenirs. Après, au niveau du confinement, ça a été compliqué avec de faire que du home trainer. C'était assez frustrant et surtout parce que dans beaucoup de pays, elles avaient le droit de rouler. Toutes celles de mon équipe, elles avaient le droit de rouler. Moi, j'étais la seule qui n'avait pas le droit. Donc, c'était pas évident. Mais voilà, après, c'est passé et j'ai pu rester bien concentrée sur mon entraînement. Au final, j'ai pas trop perdu pendant le confinement. Et puis après, il y a eu beaucoup de stages du coup pour en attente des courses. Et je pense que ça s'est assez bien passé au niveau de la préparation. Et puis après, la saison en soi, je suis assez contente, même s'il y a quelques déceptions, quoi.
Du coup, lesquels?
Bah, la plus grosse déception, je pense que c'est le Giro, parce que je voulais vraiment être en forme et au final, bah, j'étais pas à la forme que je voulais. Et puis au final, les étapes me convenaient moins que ce que je pensais, parce que c'était pas des cols longs. Et du coup, on l'a su vraiment tard, donc pas possible de changer non plus la préparation au dernier moment. Et puis mais après, ça reste une déception, mais aussi quand même, j'ai réussi à rester mentalement vraiment motivée alors que j'étais pas à la forme que je voulais. Parce que c'était vraiment l'objectif du général. Et du coup, j'ai dû vraiment changer. Et puis, j'ai réussi à avoir un podium quand même sur la dernière étape. Donc, c'est pas que du négatif, mais c'est quand même la plus grosse déception, je pense, en général, ce Giro, quoi.
Et parce que tu penses que du coup c'est lié à cet entraînement qui n'avait pas été adapté, est-ce que vous avez fait un post-mortem avec ton équipe?
Ouais, un petit peu. Bah, je pense qu'il n'était pas assez adapté parce que du coup, c'était vraiment plus pour les puncheuses. Et puis, ben, je suis pas puncheuse. Enfin, en tout cas, cette année, on l'a pas travaillé, donc ça a été difficile pour moi. Puis après, bah, c'était peut-être aussi la période. C'était compliqué à gérer. J'ai fait pas mal de stages en altitude. On savait pas forcément comment j'allais réagir. C'était pour apprendre. Donc c'est pas des regrets, mais voilà, juste un peu déçu parce que ça me tenait à cœur d'être bien sur le Giro, quoi.
Ok. Et tu disais que tu as été la seule de ton équipe à ne pas pouvoir sortir pendant le premier confinement. Est-ce que tu trouves que ça a fait, tu voyais que tu étais en retard quand, on va dire, le déconfinement est arrivé et que la saison a repris?
Un petit peu, je pense que sur les premières courses, je manquais quand même un peu d'entraînement. Après, c'est pas évident à évaluer parce qu'on a quand même eu quasi 3 mois, je crois, dehors. Donc après, voilà, on a pu quand même rattraper le retard. Mais je pense que, enfin, quand on regarde même au niveau du volume à l'année et tout, les autres ont quand même, les étrangères ont pu quand même plus rouler. Donc je pense qu'après, niveau de la caisse, ça nous a quand même un peu porté préjudice, quoi. Donc j'espère que ça n'arrivera plus.
Ben, on l'espère tous. Ben,
C'est
malheureusement, là,
ça.
on est encore au 10 janvier, on peut pas
Ouais.
trop,
Là, on n'est pas sûr. Ouais.
on peut pas s'exprimer. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le deuxième confinement, vous pouviez sortir.
Ouais. C'est ça. Bah là, c'était le jour et la nuit. Enfin, pour nous. Après, au début, c'était un peu particulier. J'avais peur, enfin, d'aller sur la route et que les gens en voiture ne sachent pas que, enfin, y a des gens qui ont le droit en fait de sortir. J'avais un peu peur de ça, mais au final, ça s'est bien passé. Et puis non, c'était vraiment un soulagement de pouvoir s'entraîner dehors parce que là, surtout qu'il y avait encore des compétitions pour nous, donc. Si on avait dû faire du entraîneur, je pense que ça aurait été vraiment compliqué, quoi.
Et donc maintenant, si on se penche sur 2021, est-ce que déjà tu as le programme de ton année?
Un petit peu, là, j'ai les grandes lignes là depuis quelques semaines.
Et donc, qu'elles vont être?
Bah, j'ai pas le droit de tout dire,
Ah,
mais non, c'est ça. Du coup, je sais même pas si je peux annoncer la première course, donc faut peut-être pas en
ok,
parler. Ouais,
pas te mettre dans
on sait
l'embarras
jamais.
là-dessus. Et du coup, au niveau peut-être préparation, là on est en pleine intersaison. Quel est ton programme de préparation avant ces premières courses?
Et ben là, du coup, donc en décembre, j'ai été 3 semaines dans le sud de la France pour avoir des bonnes conditions, pour commencer, enfin, c'était après ma coupure, en fait. Donc, j'ai commencé à reprendre le volume là-bas. Et puis là, depuis que je suis rentrée, donc au niveau des fêtes de Noël, j'ai commencé à reprendre un peu les intensités tout doucement. Pas non plus beaucoup, mais voilà, juste des reprises d'intensité et puis en gardant du volume. Après, c'est un peu compliqué ici parce qu'il fait vraiment froid à Besançon. Donc là, on a eu 2, 3 semaines quand même assez compliquées. Là, il y en a encore une à venir. Mais après, je pars en Espagne, donc à partir du 19. On a un premier stage de l'équipe, donc à Calpe. Et puis après, on a une semaine aux Pays-Bas où on aura en fait plein de bah, tous les entre guillemets experts, ils appellent ça de l'équipe, donc au niveau de la nutrition, du matériel et tout, qui vont venir nous expliquer pas mal de choses et puis ben, qu'on se mette au point pour le début de la saison et après on repart en fait en Espagne pour un deuxième stage. Donc là voilà, ça va s'enchaîner vite avant les premières courses.
Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un stage?
Et ben en pas mal de choses, voilà, au niveau de la préparation physique, déjà c'est très important parce que ben, on est dans les bonnes conditions là-bas pour rouler, donc ça permet de faire beaucoup de volume, de faire aussi des tests. Normalement, c'est les tests qu'on fait pour voir au niveau de la forme où on en est, et puis pouvoir s'en servir aussi pour l'entraînement, pour savoir quelle zone de puissance on doit utiliser. Donc, ça sert à ça. Et après, au niveau de l'équipe aussi, ça sert à beaucoup de choses. Au niveau tactique, on peut commencer à travailler sur certaines choses, on peut mettre des choses en place. Au niveau de la cohésion, bah, c'est super important, voilà, de rencontrer tout le monde, même si là, cette année, on n'a pas beaucoup de changements dans l'équipe, mais voilà, ça, de reformer un peu l'effectif et puis bah, de travailler vraiment sur pas mal de choses. Au niveau du coaching aussi, on a beaucoup de réunions avec nos directeurs sportifs, avec nos entraîneurs. Voilà, c'est vraiment pas mal de choses au stage. Normalement, on est bien occupé.
Ok. Et donc, sans parler de courses spécifiques, est-ce que toi, tu te fixes des objectifs pour 2021?
Oui, bah, j'aimerais bien être en forme dès le début de saison. Donc, il y a des courses que je vais viser un peu plus que d'autres. Et puis aussi, au niveau des courses après, ça sera le deuxième bloc, au niveau des courses ardennaises où j'aimerais bien être en forme. Parce que cette année, je pense que j'ai pris un peu plus de confiance en moi et l'équipe aussi va me donner plus de responsabilités. Donc, ça sera mon gros objectif. Et puis en plus, voilà, ça sera déterminant pour être sélectionné ou non aux Jeux Olympiques. Donc, ça sera une période importante d'être en forme dès le début de saison. Et puis après, du coup, dans la deuxième partie, bon, après, ça, je peux le dire que le Giro, c'est quand même mon gros objectif. J'aimerais bien être en forme là-bas. Et puis après, j'espère aller aux Jeux Olympiques. Mais voilà, il n'y a qu'une place. Donc, je ne me mets pas trop la pression avec ça. Ça serait vraiment un plus d'y aller. Et puis, si je n'y vais pas, ben, c'est qu'il y avait quelqu'un de plus forte que moi qui devait y aller. Donc, mais voilà, ça sera les grandes lignes de mon calendrier pour l'instant.
Je voulais y venir. En fait, il n'y a qu'une place pour aussi bien l'épreuve en ligne que le chrono.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est basé, enfin, c'est des histoires de points UCI, en fait. Et puis, le souci, c'était déjà, donc, c'était pas sur l'année dernière, c'était l'année encore d'avant. Parce que si ça avait été sur, du coup, l'année dernière, là, on aurait été beaucoup mieux. Je crois qu'on aurait eu 2 ou 3 places. Et puis, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles, là, on a la moitié moins de places que les garçons. Bon, du coup, ça sera rétabli en 2024. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, il n'y a qu'une place, ouais, pour la France à cause des points UCI. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
Ouais, bon, on fait avec ce qu'on a. En tout cas,
c'est ça.
On te souhaite tout meilleur là-dessus. Ouais. Et toi, quelles seront les choses que tu devras faire pour gagner ta place en début de saison?
Bah, c'est vraiment d'essayer de se montrer, je pense, sur les courses où j'en aurai l'occasion avec mon équipe. Après, l'équipe de France, voilà, le sélectionneur, il regarde aussi parce qu'on n'est pas forcément tout le temps leader. Là, les filles qui sont en lice pour les Jeux Olympiques, on est aussi des fois équipières dans nos équipes. Donc voilà, c'est aussi regarder le travail qu'on fait au sein de notre équipe dans la course, si on est active. Puis voilà, essayer de montrer qu'on est en forme, quoi.
Ok, très clair. Là, on a parlé de l'avenir à court terme. Si on prend l'avenir à plus long terme, toi, comment tu te vois évoluer?
Bah, j'aimerais bien, je pense, être vraiment au pic de ma forme, entre guillemets, dans 2-3 ans. J'aimerais bien, voilà, pouvoir commencer à vraiment montrer que j'ai ma place dans les me battre pour des top 5 mondiales. C'est vraiment, en tout cas, ce que j'aimerais atteindre. Et puis, je pense que c'est réaliste en fonction de mon âge. Et puis, j'aimerais, voilà, être pour les Jeux 2024, que ça soit envisageable de viser une médaille, quoi. Ce serait vraiment les années un peu que je vise, enfin, que je m'étais toujours fixé à peu près au niveau de l'âge, à peu près 25-26 ans. Normalement, c'est l'âge où on commence à être vraiment en forme. Donc, j'espère que ça sera le cas pour moi aussi et que je pourrai performer, voilà, d'ici 2 ou 3 ans encore plus que maintenant et vraiment atteindre un niveau mondial, quoi.
C'est tout ce que je te souhaite.
Merci, c'est gentil.
Et donc, ça c'est pour toi personnellement. Et de façon plus globale, comment tu vois le cyclisme évoluer pendant les 5-10 prochaines années?
Bah, je pense que, enfin, au niveau du cyclisme féminin, c'est quand même bien parti là depuis, même je peux comparer déjà depuis 2017 quand je suis passée pro et à maintenant, il y a déjà eu beaucoup de choses mises en place et c'est vraiment en cours d'évolution, donc je pense que c'est bien parti au niveau surtout de la médiatisation, ça commence à être voilà, il y a plus de courses qui sont filmées, donc je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exposition au grand public, donc c'est bien. Après, au niveau même professionnalisme, il y a beaucoup plus d'équipes qui commencent à être très bien structurées. Donc, je pense que c'est top et je pense que ça va continuer. Là, on a eu des annonces en plus avec, même en France, après Arkea qui a créé une équipe. Il y a aussi maintenant Cofidis qui a annoncé qu'ils allaient créer une équipe. Donc, c'est top. Il y a aussi le Tour de France qui va être mis en place en 2022. Donc, ça, il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça peut donner un nouvel élan au cyclisme féminin. Voilà, ça va forcément attirer plus de public. Je pense que c'est bien parti pour ces prochaines années.
Top. Et d'ailleurs, est-ce que toi, t'en sais plus sur cette édition féminine du Tour de France?
Non, toujours pas. Du coup, il me tarde d'avoir un peu des détails, des annonces, enfin, savoir combien de jours ça sera, si ça sera en même temps que les garçons, ou avant, ou après, voilà, ça serait... Il me tarde de savoir.
Ok, bah ouais, nous aussi, c'est vrai que c'est quelque chose dont il parle depuis...
Tout le monde, je pense, ouais.
Ouais. Mm. Et si toi, tu étais présidente de l'UCI aujourd'hui,
Ouais.
quelle serait ta première mesure?
Ah, c'est compliqué ça. Je sais pas ce que je ferais en premier au niveau du cyclisme féminin. Je pense que j'essaierais de mettre au moins peut-être d'imposer les équipes pour le tour garçon, d'avoir une équipe féminine. Après, c'est pas forcément peut-être une bonne décision, parce que si les équipes sont forcées, ça marcherait peut-être pas. Faut peut-être qu'il y ait de la bonne volonté, mais je pense que ça pourrait marcher quand même.
Ça pourrait qu'améliorer les choses quand on voit que je crois que le World Tour, c'est 19 équipes masculines, c'est que 11 équipes féminines
Ouais, ou
un
même
peu
moins
plus,
du coup, parce qu'au
ouais,
final,
même
je
moins.
crois que ouais, parce qu'ils voulaient que ça soit 11 cette année, mais du coup, je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises, mais j'aurais bien dit 9 ou 10.
Et le World Tour, enfin, non seulement il y a moins de coureurs, et puis c'est pas le même niveau d'exposition, comme tu l'as dit, et donc de rémunération par la même logique. C'est professionnel depuis, avec un salaire minimum depuis quelques années. Est-ce que toutes les filles qui courent le World Tour arrivent aujourd'hui à faire ça à temps plein?
Ouais, je pense que toutes celles qui sont en World Tour maintenant, elles arrivent à faire ça à temps plein. Donc, je pense que ça a été la grosse évolution depuis l'année dernière, là, d'avoir un vrai salaire, entre guillemets, et puis qui évolue en plus, là, au fur et à mesure des années. Donc, je pense que maintenant, ça commence à être des conditions, voilà, acceptables pour pouvoir faire que ça.
Super. Bah ça, c'est quelque chose pour lequel se battait Marion Cligné, qui a été ma
Ouais.
première invitée.
Ah, bah
Et je pense que on peut remercier tous ceux qui ont fait beaucoup de
ouais.
boulot et qui
C'est
ont
clair.
essuyé pas mal de plâtre ces dernières
Ouais,
décennies.
c'est ça. Non, voilà, bah ouais, ça a été vraiment un gros palier, je pense.
Et toi aussi, il y avait un truc que j'avais noté, que je voulais aborder avec toi, c'est que tu es aussi impliqué dans l'armée. Et d'ailleurs, ton profil LinkedIn mentionne sportif de haut niveau pour l'armée de terre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton implication dans
Ouais.
l'armée?
Bah alors, faut que je change parce que du coup, j'y suis plus. Faut que je mette à jour mon profil. Mais en fait, j'étais sportive de niveau à la défense, donc c'était au bataillon de Joinville. Donc, du coup, en fait, j'ai dû tout simplement démissionner au 31 décembre 2019 parce que, bah, avec la réforme UCI, en fait, ça permettait plus de cumuler les deux contrats. Mais donc, c'était vraiment que des raisons administratives. Je serais restée avec plaisir et l'armée aurait bien voulu que je reste aussi. En fait, donc ça consistait à représenter l'armée de la meilleure façon possible et puis de ramener le plus possible de médailles à la France. Et puis en contrepartie, voilà, on avait un salaire, etc. Et puis bah fallait faire voilà quelques cérémonies, aller à plus, enfin quelques représentations. J'ai fait les Jeux mondiaux militaires aussi en Chine. Donc voilà, c'était des quelques contreparties, mais c'était voilà, eux, ils voulaient vraiment nous soutenir et puis eux c'était pour leur donner une bonne image quoi.
Ouais, super. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que toi, tu aimerais continuer à terme
Ouais, bah c'est sûr que bah ça m'a quand même apporté beaucoup de choses au niveau de l'expérience et tout. J'ai vraiment bien aimé et enfin j'aimerais bien peut-être plus tard être gendarme. Donc c'est quelque chose que je me garde sous le coude. Voilà, c'est vrai que ça peut m'intéresser plus tard. Donc je sais pas encore exactement, mais peut-être revenir dans l'armée un jour. Ouais.
Super. Ouais. En espérant que ça soit pas tout de suite et que tu aies une belle et longue
Oui,
carrière.
c'est
Comme
ça.
le font d'ailleurs
J'espère aussi.
beaucoup de coureurs qui sont encore très compétitives à un âge, on va dire, assez avancé pour un sportif. Donc voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite, le moins rapidement possible de te poser la
Ouais.
question. Je voulais aussi un peu revenir, faire un petit focus matos. On en a déjà parlé avec le passage de Cervélo à Scott. Déjà, est-ce que toi, du coup, quand tu auras ce nouveau vélo, ils vont te demander de renvoyer ton ancien vélo. Est-ce que tu as la possibilité de le garder, de le racheter? Ça marche comment?
Et ben en fait, ça se passe que là, bah, par exemple, au stage, là, du coup, j'amène mon ancien vélo de route, du coup, et puis on échange tout simplement les vélos là-bas. Donc après, pour l'instant, nos vélos de chrono, ils sont pas encore prêts parce que bah, ça a été un peu compliqué, là, comme un peu dans toutes les marques au niveau des vélos, ça a été compliqué d'avoir tous les vélos à temps. Mais là, on aura notre vélo de chrono un peu plus tard. Donc le mien, je peux le garder encore un peu. Et puis bah, quand on sera prêt, on pourra échanger tout ça.
Ok. Donc, tu n'as même pas eu l'occasion de le garder, peut-être de le racheter pour quelqu'un de la famille ou des proches qui.
Ben, l'équipe, après, elle vend les vélos. Après, c'est du coup, enfin, des fois, on peut demander. Après, là, c'est vrai qu'ils ont été un peu, du coup, débordés. Enfin, c'est vrai que c'est qu'ils revendent toujours les vélos à des prix assez intéressants. Après, on doit les revendre que à certaines personnes ou à des personnes assez proches. Mais du coup, là, je pense qu'ils ont déjà même tout réservé, même les vélos que j'ai encore maintenant. Donc, je pense que
Ok. Tu
c'était
penses qu'ils les revendent plus cher parce que ils ont été utilisés par. des coureurs pro?
Non. Non, non, ils les
Ou
revendent
pas?
vraiment pas cher. C'est des prix super intéressants. Non, quasi toutes les équipes font ça. Et du coup, en fait, ouais, ça vaut vraiment le coup normalement.
Mais donc, c'est vrai que tu pourrais dire qu'ils pourraient laisser les proches des coureurs en profiter aussi.
Ouais, bah c'est sûr. Après, on a des prix pour nous, même si par exemple, moi, je voulais acheter pour mon père ou je sais pas quoi. Voilà, on a des prix aussi spéciaux pour nous, quoi.
Sur tous les types d'équipements,
Ouais,
vélo, compteur, tout
même
ça.
là-bas, là, du coup, même cette année, au niveau des habits et tout, parce que du coup, vu qu'on change aussi d'habits, enfin, de marque d'habits, donc là, ils ont vraiment tout vendu. Je pense que c'était un.
Hop, je crois que je t'ai perdu.
Ouais, c'est bon, là, je crois que je suis revenu.
Ouais, parfait. Niveau entretien, rassure-nous, est-ce que tu laves ton vélo à chaque sortie ou tu es comme un cycliste normal et tu fais ça vraiment quand ça devient trop sale?
Moi, j'aime pas trop laver mon vélo, mais je le fais quand il faut, quand il est sale, mais j'ai la chance. Là, j'habite encore à côté de chez mes parents, enfin voilà, quelques minutes. Et du coup, mon papa, il adore laver les vélos. Enfin, il s'est toujours occupé de mes vélos. Du coup, il me propose de s'en occuper. Du coup, j'ai de la chance. Je suis un peu.
Ouais, c'est clair.
Mais si j'étais toute seule, enfin voilà, je ne le laverais pas non plus tous les jours. Après, sauf s'il pleut, voilà, là, il faut les entretenir. Donc, il faut bien, mais non, sinon, quand même pas tous les jours.
Ok, tu me rassures, tu me rassures. Et d'ailleurs, quand tu le laves, tu fais quoi en général?
Ben quand je le lave, par contre, je le lave bien parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Du coup, je fais tout normalement pour qu'il soit nickel, quoi.
Ok. Karcher ou tu fais
Ouais, au
comment?
Karcher, sur le pied
Ouais, d'accord.
d'atelier. Enfin, voilà, j'ai appris aussi parce que du coup, je faisais pas trop ça avant. Et maintenant, c'est vrai que des fois, je suis amenée, voilà, quand je suis chez moi ou quand je suis aux Pays-Bas avec l'équipe, c'est vrai que du coup, c'est à moi de faire. Donc, du coup, j'ai appris vraiment à faire ça bien. Même des fois, les mécanos qui nous ont montré et tout, on a eu des petits ateliers. Donc, c'est. Mais au final, c'est plaisant, une fois qu'on sait faire puis qu'on a les bons produits, je trouve que c'est pas désagréable quand même.
Bah du coup, est-ce que tu as des conseils niveau produit ou niveau technique à nous partager?
Bah, au niveau produit, là, on a un nouveau sponsor. Donc là, j'ai pas encore essayé. Après, ça a l'air bien, c'est une petite entreprise. Après, je pense que maintenant, enfin, il y a quand même
Ça
beaucoup de
s'appelle
marques qui
comment?
proposent. Welltite.
Ok.
C'est une marque hollandaise. Je ne sais pas s'ils vendent, mais je pense qu'ils vendent à l'étranger aussi. Après, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de marques quand même qui proposent des produits spéciaux pour nettoyage de vélo. Donc, c'est assez. Voilà, il y a du choix. Et enfin, je trouve que le plus important, c'est quand même d'avoir un pied d'atelier pour laver le vélo. Parce que sinon, c'est quand même compliqué quand on n'a pas. Et ça devient tout de suite galère. Alors qu'au final, avec un pied d'atelier, c'est beaucoup plus facile.
Ok. Est-ce qu'il y a une chose à ne pas négliger dans le nettoyage du vélo?
Ouais, bah, la transmission, c'est vraiment le plus important, hein, de faire ça bien, quoi.
Ouais, j'imagine, mais
Ouais.
c'est rassurant que tu nous confirmes ça.
Ouais.
J'ai vu aussi dans vos changements d'équipement que vous êtes passé, vous changez de compteur, vous passez sur des Wahoo. Toi, du coup, tu ne l'as même pas encore reçu?
Non, pas encore non plus. Là, il me tarde d'essayer ça.
Ouais, parce que je me demande en fait si les coureurs pros sont aussi excités sur leur matos que les amateurs.
Si, je pense. Après, pas tout le monde, il y en a. Enfin, je sais que j'ai des équipières qui sont un peu moins réceptives à ça, enfin, qui sont moins intéressées là-dessus, mais c'est vrai que moi j'aime quand même bien. Quand on a des nouvelles choses, voilà, se renseigner un peu avant et puis après essayer tout de suite, quoi.
Et c'est quoi le truc du coup que tu attends le plus parmi tous tes nouveaux équipements qui devraient arriver sous peu?
Ah, le vélo. Je pense que le vélo de route, j'ai vraiment envie de l'essayer.
Et puis il est très beau aussi. Enfin, je ne sais pas quel est toi ton
Ouais, il est
avis,
beau
mais moi je le
aussi. Ah,
trouve
j'adore, ouais.
magnifique. Ouais.
Ouais.
Je mettrai des liens vers les photos, les vidéos du vélo. C'est un vélo Scott avec un aspect comment dire
Avec des paillettes un peu, mais
ouais, des paillettes, enfin, un reflet
ouais.
noir avec un reflet bleu des couleurs de
Ouais.
l'équipe qui est vraiment magnifique. Si on passe sur un autre sujet, le sujet de l'entraînement, est-ce que déjà toi tu peux nous dire, est-ce que tu as une structure d'entraînement et comment est structuré ton entraînement si c'est le cas?
Ouais, bah ça dépend vraiment des saisons. Enfin, avec mon entraîneur, on voit dès qu'on a mon plan de course, comment on peut voilà, faire au mieux la planification annuelle. Après, clairement, c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, je n'ai pas forcément mon mot à dire. C'est juste, des fois, voilà, si j'ai des questions, des remarques, voilà, en fonction de où je suis, si je suis chez moi, pas chez moi. Et vraiment, bah, ça, c'est, enfin, la structure de base, c'est vraiment de reprendre part du volume, d'avoir un bloc d'endurance. Après, on prend les intensités avant les courses. Et puis, quand il y a les courses, c'est entre les courses, c'est beaucoup de récupération et puis juste des rappels d'intensité, beaucoup moins d'endurance par rapport au reste de la saison. Et puis voilà, après, on essaie d'avoir des pics de forme, donc de viser ça sur 3 semaines à peu près. Ça peut aller à peine au-dessus, mais voilà, normalement, le pic de forme, ça dure 3 semaines. Et puis voilà, ça s'articule du coup autour de ces pics de forme, quoi.
C'est noté. Et au final, à la fin de l'année, ça fait combien de kilomètres de roulé pour toi?
Ben, là, cette année, au final, je n'ai pas augmenté par rapport à l'année d'avant avec le confinement et tout. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Là, j'ai fait 20 000. Enfin, 19 900, mais faut pas le dire.
Ok. T'as pas essayé
Non,
les dernières
je rigole.
semaines
Bah
de
non, mon
compléter?
entraîneur, il a pas voulu. Enfin, moi, puis en plus, je respecte vraiment l'entraînement, donc je n'aime pas faire plus que ce qui est prévu. Mais là, c'est vrai que ça m'a démangé un petit peu quand même à la fin.
C'est bien. Et du coup, toi, tu lui donnes quand même tes retours d'impression, ta fatigue. Est-ce que l'entraîneur va adapter l'entraînement en fonction de ça?
Oui, bien sûr. Bah voilà, lui, il prépare le plan optimal, mais bon, après, en fonction même des fois des conditions météo, de la fatigue, enfin, c'est vraiment, faut vraiment s'adapter, voilà, en fonction de tout ça, quoi. Donc, il faut que moi je lui fasse des retours et puis après on en discute ensemble, quoi.
Ok. Et est-ce que tu as, pareil que pour le matos, est-ce que tu as des conseils d'entraînement pour nous, cyclistes amateurs?
Bah, je pense que bah, après, si on n'a pas d'entraîneur, je pense qu'il faut quand même se faire soi-même un plan d'entraînement pour pouvoir se tenir à quelque chose, quoi, se rester assez structuré. Enfin, moi, c'est ce que je ferais en tout cas, et puis essayer de respecter au mieux tout ça, quoi. Jamais vouloir enfin, faire plus que ce qu'on s'est fixé ou moins. Essayer de tout, hein, sauf si on est fatigué voilà, ou malade, ça c'est sûr que voilà, il faut adapter, quoi. Mais il faut toujours essayer de respecter le plan et puis de l'exécuter de la meilleure des façons, quoi, intelligemment. Et puis voilà, puis après, c'est vrai que on voit beaucoup au niveau du cyclisme amateur qui roule beaucoup, beaucoup trop fort à l'entraînement. Et au final, c'est souvent les pros qui roulent moins vite que les amateurs. Moi, je vois que je me fais souvent des fois doubler à l'entraînement. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il faut accepter de rouler en endurance. Faut pas rouler trop vite. Et puis que quand on a des exercices, par contre, là, voilà, c'est vraiment tout ou rien. C'est vraiment, il faut être aller tranquille en gros ou vraiment forcer quand on a des exercices, quoi. Il faut pas rouler tout le temps un peu entre à fond et pas à fond. Voilà, c'est le pire à faire,
Ok, bah c'est bien noté. C'est vrai que je pense que c'est
quoi.
quelque chose, peut-être que l'ego de beaucoup d'amateurs
Ouais.
nous travaille et donc c'est une bonne chose à noter. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu sais peut-être où on pourrait trouver ces plans d'entraînement?
Ça doit être. Après, je sais que sur TrainingPeaks, par exemple, ils font des fois des blogs où ils expliquent un petit peu comment ça se passe. Après, je pense qu'il y a des plateformes qui sont déjà mises en place ou alors il faut se renseigner auprès de. Je sais que enfin, je connais quelques entraîneurs voilà, qui proposent au grand public aussi d'avoir des plans d'entraînement pour. Pas super cher, voilà, un peu moins individualisé qu'un suivi d'un pro, mais quand même, voilà, assez structuré. Donc c'est, il y en a pas mal qui proposent ça.
Ok, bah j'essaierai de trouver ça et mettre en note
Ouais,
du
ça marche.
podcast. Toi, tu as la chance, bah, on disait 20 000 km de rouler cette année. Ça fait 4 ans que tu es pro avec l'équipe. Tu as roulé partout en Australie. Est-ce que toi, tu as des routes préférées pour faire du vélo?
Ouais, bah déjà, ma région, je pense que enfin, je suis assez chauvine. J'aime vraiment bien rouler en Franche-Comté, parce qu'on a un peu de tout. Besançon, c'est vrai qu'on a du plat, c'est vallonné, on peut avoir des bosses un peu plus longues, on a le Jura pas loin, donc c'est il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc je pense que c'est quand même là que je préfère rouler, mais après l'hiver, c'est compliqué. Donc je ne vais pas dire ça à 100%. J'aime aussi bien aller dans le sud de la France l'hiver. Je vais souvent autour de Cannes, autour de l'arrière-pays niçois, je trouve ça vraiment sympa l'hiver pour rouler. Et puis je pense que l'endroit le plus beau où j'étais, c'est quand même l'Australie au niveau des routes et tout. Enfin, les conditions là-bas pour rouler, c'est vraiment génial. Enfin, au niveau des voitures, ils respectent beaucoup. Et ouais, c'est vraiment génial là-bas, quoi.
C'est vrai que l'Australie, c'est peut-être un peu plus compliqué si c'est juste pour aller faire du vélo en tant
C'est ça un
qu'amateur.
stage, quoi. Mais voilà.
Mais peut-être en Franche-Comté, Jura et
Ouais,
autour de
non,
Nice,
vraiment.
est-ce que tu as des routes précises en tête que tu adores vraiment?
Bah, autour de Cannes, du coup, j'aime vraiment bien le Tanneron. Enfin, en fait, c'est une bosse qu'on peut faire de pas mal de côtés. Je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a les Adrets de l'Esterel, c'est très beau aussi. Puis il y a la route du bord de mer entre Cannes et puis Fréjus, c'est aussi vraiment c'est à faire, quoi. C'est dépaysant et puis c'est vraiment super beau. Et puis après, ici en Franche-Comté, vraiment, je recommande pas mal de routes. Enfin, autour de Besançon, il y a tous les forts. Donc, c'est sympa à faire. En fait, en vélo, c'est dur. Enfin, si on fait la sortie des forts, c'est une sortie compliquée, mais ça peut se faire en plusieurs fois aussi. Et après, au niveau aussi, on peut aller du côté d'Ornans. C'est à côté de Besançon. Et là-bas, les routes sont vraiment super avec peu de circulation. Donc, c'est dans la vallée de la Loue. C'est vraiment sympa là-bas.
Top. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Juliette. On approche
Bah, de rien.
de. Non, non, avec plaisir. On approche de la fin de l'interview. Je voulais aborder aussi. On a parlé de vélo, que de vélo jusqu'à maintenant. Je voulais aussi savoir qui était Juliette Labousse en dehors d'un vélo. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais quand tu n'es pas sur un vélo?
Ouais, bah c'est vrai que ma vie elle tourne quand même pas mal autour du vélo. En plus maintenant, enfin mon copain il est passé aussi professionnel sur route, donc on parle beaucoup de vélo. Mais j'aime vraiment aussi passer du temps avec ma famille. Voilà, je suis vraiment liée aussi avec mes frères et sœurs. Donc, en plus, ma sœur, elle a 10 ans de plus que moi, elle a des enfants et tout. Donc, voilà, je suis vraiment attachée à eux aussi. Et puis, j'aime aussi passer du temps avec mes parents. Voilà, donc, je suis quelqu'un qui aime vraiment passer du temps avec la famille et puis mes amis aussi. Même si là, du coup, forcément, cette année, on s'est un peu moins vus. Enfin, c'est déjà compliqué de se voir en temps normal avec mon planning, mais j'aime vraiment passer du temps avec eux. Et sinon, bah après, j'aime bien cuisiner, j'aime bien lire quelques livres, écouter de la musique. Voilà, c'est des choses un peu plus basiques.
Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu écoutes comme type de musique?
Bah, j'écoute un peu de tout. Je pense que ce que j'écoute le plus, ça serait plus de la pop rock aussi.
Et tu l'écoutes sur le vélo pendant les entraînements?
Non, jamais. J'aime vraiment pas écouter de la musique sur le vélo. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi, non, j'aime pas. Je préfère profiter de la nature.
Ok, c'est très bien aussi. Moi, je suis un peu
Ouais.
pareil. Et est-ce que tu as d'autres sports que tu suis de près ou de loin?
Alors ça, des fois, les gens me demandent, mais c'est vrai que après, des fois, mon copain se moque de moi parce qu'au final, je suis peut-être pas vraiment de près. Mais j'aimerais bien, par exemple, l'hiver, regarder le biathlon. Je trouve ça sympa à regarder. Et puis j'aime bien aussi regarder l'athlé quand il y a les championnats du monde ou voilà quand ça passe sur les grandes chaînes à la télé, j'aime bien suivre ça. Le tennis aussi, pareil, quand c'est Roland-Garros, c'est des trucs comme ça, j'aime bien suivre. Donc je m'intéresse un petit peu aux autres sports, mais pas forcément un en particulier.
Ok. Et est-ce que tu suis en fait le vélo? Est-ce que tu regardes les autres courses auxquelles tu ne participes pas, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes?
Ouais, bah chez les femmes, c'est vrai que je les regarde toutes normalement, quand même quand j'y participe pas. Après, chez les garçons, du coup, un peu moins, parce que des fois, c'est surtout quand, par exemple, on a la même course qu'eux, enfin le même nom, et puis que nous, c'est pas filmé, du coup, là, je regarde pas les garçons,
Tu
parce que
boycottes?
ça m'énerve des fois. Mais au final, non, mais je regarde quand même la plupart du temps les plus grandes courses, je suis beaucoup.
Ok. Est-ce que tu as d'ailleurs un coureur en activité que tu admires? Coureur avec un E ou pas?
Ouais. Chez les filles, je pense que celle que j'admire le plus sur route, ce sera Anna van der Breggen. Après, il y a aussi Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, c'est au niveau français. Après, même si elle fait plus de route maintenant, ça reste quand même la plus grande championne, je pense. Et puis, niveau, voilà, même personnel, elle est très sympa. Donc, voilà, je pense que c'est une personne que j'admire beaucoup. Et après, chez les garçons, en ce moment, c'est quand même Julien Lafilippe, je pense, au niveau français, qui est vraiment au-dessus du lot et puis qui est impressionnant, même au niveau mondial. Donc, enfin, champion du monde, voilà, on ne peut pas franchement avoir mieux. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi, quoi.
Ok. Et en parlant de coureurs français, tu étais la seule française de l'équipe DSM pendant très longtemps. Je ne sais pas si ça a été le cas depuis que tu es là. Il y a eu une arrivée assez médiatique d'un autre français dans l'équipe, Romain Bardet. Est-ce que tu as eu la
Ouais.
chance d'échanger avec lui depuis l'annonce de son arrivée?
Un petit peu sur les réseaux, ouais, on a parlé un petit peu, mais on s'est toujours pas vu en vrai, du coup, donc pas encore beaucoup.
Tu vas le croiser au stage en Espagne?
Ouais, je crois que sur quelques jours, peut-être, on est en même temps que eux, parce que là, eux, ils viennent d'arriver, donc je pense que les derniers jours de leur stage, je pense que nous, on va arriver. J'ai pas encore tout regardé, mais il me semble qu'on se croise.
Ok. Et dernière petite question, je voulais te demander quelles ont été les personnes clés dans ta carrière qui t'ont permis d'en arriver là aujourd'hui et que tu aimerais remercier.
Oui, bah, il y en a beaucoup, hein, si on fait une liste, beaucoup de personnes à remercier, mais je pense que les premières, c'est quand même mes parents, parce qu'ils m'ont soutenue, voilà, depuis que je suis toute petite. Ils m'ont jamais poussée à faire quelque chose, mais ils m'ont toujours motivée, toujours soutenue. Enfin, franchement, dans toute la France, tous les déplacements qu'ils ont faits pour mon frère et moi, c'est assez impressionnant. Et puis même maintenant, ils continuent de me soutenir, donc je peux leur être que redevable. Après, j'ai aussi les personnes qui m'ont fait commencer le vélo, donc avec la SPTT Besançon, il y avait les encadrements qui étaient vraiment, voilà, pareil, motivants aussi, puis qui m'ont appris un peu la passion du vélo. Et puis je pense que les personnes du Pôle Espoir, enfin là, mon entraîneur Mathieu Nadal, c'était une personne clé. Sandrine Guéronnet aussi, elle s'occupait du Pôle Espoir et après de l'équipe de France. C'est vraiment des personnes, je pense, qui m'ont suivi enfin tout au long de la carrière, puis qui m'ont amené vers le milieu professionnel, donc jusqu'au milieu professionnel, je pense que c'est ces personnes-là, et aussi mon grand frère qui m'a, bah, du coup, comme je te l'ai expliqué, qui m'a mis dans le vélo, donc et puis qui me soutient aussi toujours maintenant, donc c'est, ouais, voilà, s'il faut que je fasse en réduit, je dirais ça.
Ok, bon, mais c'est déjà pas mal. Juliette, merci vraiment pour ton temps. Je te souhaite une excellente saison 2021, un excellent stage pour débuter.
Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Je
Et
trouve ça
voilà, à
gentil.
très bientôt, on te suivra de près.
Ouais, bah merci, à bientôt.
Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager à vos amis. Et si vous êtes sur un iPhone, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Non seulement ça me ferait très plaisir, et puis ça aiderait l'échappée à avoir plus de visibilité. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je mets les liens en description de l'épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode avec Emmanuel Hubert, le général manager d'Arkéa Samsic.